Oh oui, on jase d'actualité, on jase d'actualité locale, on jase d'actualité provinciale. Vous l'avez vu, si vous êtes à l'écoute de l'émission depuis le début, c'est exactement ce qu'on fait. On a parlé des vacances de Bruno Marchand, Calicia Despins. On vient de parler d'un dossier très important sur les boissons énergisantes pour les jeunes avec deux parents éplorés. Et là, on va s'apprêter à parler de nos écoles, nos infrastructures. Ça craque de partout au Québec, mais surtout pour nos écoles, avec un documentaire que Pascal a écouté hier, un documentaire mettant en vedette Ricardo.
Tu sais quand ça prend Ricardo, le gars de l'empire de la cuisine, pour faire réagir au niveau éducation, on a peut-être un problème.
Oui, c'est ça qui fait un peu péter. Ça devrait être plutôt les enseignants et les directions d'école qui fassent réagir. Mais bon, gouvernement, écoute les vedettes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais avant ça, Pascal, un résumé de tout ce qui brasse dans cette actualité florissante aujourd'hui.
As-tu 4 heures?
En ce mardi 31 mars.
T'as pas 4 heures, hein?
On va pratiquer ton...
On va faire un résumé d'un résumé. Donc, 880 000 $, c'est la somme que va devoir payer Gilbert Rozon à 8 des 9 femmes qui avaient entamé un procès civil contre l'ex-magnat de l'humour. C'est la juge Chantal Tremblay qui a cru la version et davantage celle des 8 des 9 femmes qui affirmaient avoir été agressées sexuellement. Les plaignantes réclamaient 14 millions de $. Vous comprenez que c'est beaucoup moins ce qu'elles récoltent. Et Gilbert Rozon n'a pas voulu faire de commentaires aujourd'hui. Attaque au sable dans le Vieux-Québec à l'Halloween 2020. Carl Giroir va avoir droit à un nouveau procès. Pourquoi? Bien parce que la Cour d'appel invalide le verdict de culpabilité. On ordonne un deuxième procès en concluant que le jury aurait dû être instruit sur le silence de l'accusé en interrogatoire. On n'aura plus de détails à venir. C'est assez frais. Également dans l'actualité, la Ville de Québec met fin à son programme d'aide aux commerçants dans Saint-Roch. L'enveloppe disponible de 1 million de $ a été dépassée en moins d'un an. Le fonds spécial pour Saint-Roch, c'est 19 entreprises qui ont pu en profiter dans ce projet de développement-là. Par contre, il est à noter, et on le fait dans le soleil, que les locaux commerciaux sur la rue Saint-Joseph demeurent pratiquement inchangés en termes de taux d'occupation. Là, on est toujours autour de 19 %. C'est l'endroit où c'est le plus élevé au terme d'artère commerciale dans la ville de Québec. Le taux d'occupation extrêmement élevé là, pour la situation. Arrestation perquisition dans Sainte-Foy. C'est un homme de 58 ans qui a été arrêté pour trafic de stupéfiants. Diverses infractions aussi en lien avec armes à feu. Il devrait comparaître cet après-midi au palais de justice. C'est dans une résidence du secteur Jouvence que ça s'est produit ce matin. Beaucoup d'armes saisies, de la drogue également, des cellulaires et d'autres objets liés à ce genre de vente de stupéfiants. Et je dois dire qu'il y a un accident particulier qui s'est produit ce matin. Donc, automobiliste qui s'est retrouvé coincé sous son propre véhicule après une fausse manœuvre. C'était à la borne de péage du stationnement de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec ce matin. Donc, les policiers ont intervenu à 10h10. Il y a eu des manœuvres sur la femme qui ont été réalisées parce qu'elle se trouvait coincée sous son propre véhicule, là. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle aurait ouvert la portière pour accéder à la borne de péage. Elle serait tombée au sol et l'embrayage de son véhicule n'avait pas été mis sur stationnement. Donc, ça lui a roulé dessus. C'est une octogénaire. Elle a été transportée dans un centre hospitalier. On a des blessures importantes.
Je vous invite à aller au patrolapin.com. Pourquoi? Parce que c'est Pâques en fin de semaine. Puis vos enfants, votre chum, votre blonde, vos parents, ils veulent déguster les excellents patrolapins. C'est pour passer votre commande. C'est au patrolapin.com. Offrez le bonheur à tous. Et en plus, ben, faites profiter du patro votre somme pour le patrolapin. Ça va servir à offrir plus de sport, de loisirs et d'entraide dans les centres communautaires de votre quartier. Et il y a même 5000 $ à gagner. École sous pression, Pascal CV. C'est le documentaire de Ricardo. Puis là, ben, quand je regarde ça, il n'est pas marqué cuisine sous pression. Non. Donc, ça veut dire que Ricardo s'est intéressé à autre chose que ses couteaux.
Oui, puis c'est vraiment lui qui a demandé à faire un reportage, un documentaire là-dessus. Ça va un peu faire écho avec tout le projet de Lab École. Il y en a certaines qui ont vu le jour au Québec, mais très peu. C'était des écoles qui étaient uniquement concentrées dans leur construction au bien-être des enfants. On ne prenait pas en considération ce que les adultes aimeraient, puis le budget, puis etc. Ça a été diffusé hier et ce sera en rediffusion ce soir 20h sur RDI et toujours disponible sur tout.tv. J'ai parlé à deux personnes ce matin, deux intervenants. D'abord, Julie Paquin, qui est productrice du documentaire, et aussi André Bernier, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école et qui est basée dans la capitale nationale. Ce qui a frappé la production dans ce documentaire, c'est davantage la complexité de l'enjeu. Il n'y a pas de réponse simple. Il voulait lever le voile sur le manque d'entretien, de maintien, le manque d'espace et ces espaces-là qui sont mésadaptés aux besoins d'aujourd'hui et de la pédagogie contemporaine. Ce qui frappe, c'est qu'on dirait qu'on est dans un genre de cul-de-sac face à ces enjeux. On peut écouter Julie Paquin, productrice.
En résumé, le milieu de l'éducation connaît les solutions pour résorber le déficit du maintien d'actifs des bâtiments, des écoles au Québec, pour régler l'enjeu du manque d'espace. On les connaît, les solutions. Maintenant, ce qu'on nous répond, Mme Sonia Lebel, notre ministre de l'Éducation en place en ce moment, et Mme Michèle Courchain, ancienne ministre de l'Éducation, ça allait être difficile de répondre à la demande du milieu qui était celui d'avoir plus de prévisibilité. Pour l'instant, les centres de services scolaires connaissent très tardivement l'argent dont ils vont disposer pour rénover leur parc immobilier, si on peut dire. Si on veut, en bon québécois, stripper notre cuisine, ben on va pas prévoir ça 2 mois d'avance, 3 mois d'avance, même 6 mois d'avance. Là, on va y penser, on va se faire des plans, on va ramasser de l'argent. Fait qu'imaginez, là, c'est exponentiel dans le réseau. Fait que ça avait pas l'air possible. Fait qu'effectivement, on se dit, mon Dieu, comment on va y arriver? Mais je pense qu'il faut se dire qu'on est capable de changer les règles existantes, puis peut-être que collectivement, on est capable de se dire que cette réponse-là, ben on l'accepte pas, puis on va changer ça. Il n'y a rien d'impossible.
C'est clair que si on écoutait les gens sur le terrain, ça irait mieux, mais ça, le gouvernement le fait jamais.
Oui, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a qui peuvent parler, d'autres moins, on en reparlera de ça, mais ils ont parcouru le Québec, du moins là où on a décidé de répondre présent aux invitations de la production. Puis à Québec, qu'est-ce qui a été mis en lumière? Elle parle entre autres de sa rencontre avec Marie-Claude Asselin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires, Centre des premières seigneuries. On la remercie, c'en est une qui a énormément parlé dans le documentaire. Voici la situation par Julie Paquin, productrice.
C'est d'abord l'enjeu d'espace. Donc, il y a une surpopulation d'élèves à Québec. Il y a plusieurs demandes d'ajout d'espace. Donc, ça veut dire de nouvelles écoles qui ont été faites et qui n'ont pas toutes été acceptées. Donc, c'est la loi au Québec. Hein, quand on a un élève, il faut le scolariser, il faut le placer. On savait que l'enjeu du manque d'espace à Québec est important. C'est ce qui nous avait amené là-bas. On n'avait pas les chiffres en main, donc c'est sûr qu'on a été étonnés d'apprendre qu'il manquait sur un horizon de 10 ans 3000 places au secondaire, 3000 places au primaire.
Ouais, puis aux premières seigneuries, là, je m'excuse de t'interrompre, mais on a construit une nouvelle école sur les anciens terrains du zoo, puis on a mis des modulaires l'année d'après. Fait que pour montrer comment qu'on n'est pas capable de prévoir du côté du ministère de l'Éducation.
Elle était pleine après 2 ans, imaginez.
C'est
là.
Ça, c'est un exemple concret.
Puis c'est une super belle école en passant. On est allé la visiter du côté de la production puis du documentaire, mais même son de cloche pour un acteur de l'éducation qui a les deux pieds dedans. Et c'est là qu'André Bernier entre en ligne de compte dans les clips que je vous présente. C'est le président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. C'est pas une surprise pour lui, sauf pour...
Par contre, il y a certaines des réponses qui ont été données là, qui m'ont grandement surpris par rapport au financement puis le fait que dans plusieurs centres de services, là, il manque de place et encore plus que je croyais.
Et chose importante aussi qui ressort de ma conversation avec la productrice du documentaire, c'est l'étanchéité de ce qui est dit.
Alors qu'on sait que le personnel du réseau de l'éducation se sent muselé. Je ne dis pas qu'il l'est, hein, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, mais il est assurément le personnel du milieu de l'éducation se sent muselé. Alors, il faut lever notre chapeau à ceux qui ont choisi de nous ouvrir les portes de leur milieu, de nous parler de leur réalité. Puis à Québec, au Centre de services scolaires des premières seigneuries, directrice d'école au Saguenay aussi, Virginie Allan Pilote. Donc, tu sais, ce sont des femmes qui ont accepté de peut-être, disons, d'aller à contre-courant puis de dire, ben nous, on n'a rien à cacher, on gère comme du mieux qu'on peut avec les ressources dont on dispose et voici la réalité.
Personne ne devrait se sentir muselé au Québec. Puis malheureusement, que ce soit dans les organisations syndicales ou même avec le gouvernement, on va plus chercher à punir le lanceur d'alerte qu'à punir ceux qui font en sorte qu'à l'heure actuelle, il y ait des déficiences comme ça dans nos infrastructures.
Pour beaucoup d'enseignants que j'ai consultés hier, là, je dois être autour de 6-7 à qui j'ai parlé. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont appris des choses aussi en termes de combien de manques au niveau des locaux on va avoir dans les 10 prochaines années. Pour M. Bernier, le documentaire illustre bien une problématique écriante. On sent aussi, c'est le terme qu'on utilise beaucoup là, dans le documentaire, mais dans un cul-de-sac.
Les premières seigneuries sont en démarche déjà depuis plusieurs années et ne reçoivent pas de réponse ou les réponses tardent, s'étirent parce qu'ils sont en démarche. Il faut, faut que ça peut pas juste être des modulaires, parce que finalement, les modulaires vont se retrouver plus grosses que les écoles. Là. On s'entend que 3000 élèves au secondaire, c'est une très, très grosse école secondaire. Puis 3000 au primaire, là, c'est à peu près l'équivalent de 5 assez grosses écoles primaires. Là. Il y a des constructions qu'il faut qu'ils soient faites et rapidement, mais les problèmes, c'est que il n'y a plus de terrain. C'est très difficile de trouver des terrains avec les villes pour que ça fonctionne. Et c'est très difficile. On ne réussit pas à avoir le financement du ministère.
Oui, puis aussi, la problématique avec les modulaires, c'est même si maintenant on aménage certaines parties de gymnase ou de cafétéria, reste que les espaces communs qui doivent être partagés par l'ensemble des élèves. Dans une école, ben, ça a été prévu pour exemple 1500 élèves, mais là, avec les modulaires, on est à 2200, donc les espaces communs ne sont pas assez grands.
Mais trop plein d'élèves dans les établissements amène beaucoup plus de problématiques qu'on pense, là.
C'est pas pour rien non plus qu'autant de violence. Il y a tellement de promiscuité dans les écoles à cause que les élèves, il y en a trop dans les écoles, puis il n'y a plus de place, que ça s'ajoute à ça. Mais je pense que la structure de fonctionnement pour le ministère, pour accorder des permis de construction, il y a quelque chose à revoir. Moi, j'entendais la ministre dans le reportage dire hier que le ministère ne peut pas se prévoir, le gouvernement ne peut pas se prévoir sur plusieurs années. C'est insensé d'entendre quelque chose comme ça. C'est comme si on se disait, ben non, on va se gérer seulement à l'année pour des besoins en infrastructure qui sont majeurs. Si le fonctionnement du financement ne fonctionne pas, ben qu'il le change, qu'il l'ajuste pour répondre aux besoins à long terme des organisations là, gouvernementales.
Je ne sais pas si au 88-971-1021, vous pouvez nous parler des locaux que vous trouvez en décrépitude dans les écoles de vos enfants. Avez-vous des exemples? Mais le retard est tellement grand au niveau de l'investissement, Jeff, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est un retard de 25 milliards de dollars dans le réseau. Coupure cette année, on ne peut pas utiliser le surplus du centre de service. Tout le monde construit en même temps, les coûts vont augmenter. On connaît l'offre et la demande. Il faudrait un changement au niveau du financement au sein du gouvernement. Ce serait déjà un premier pas, on dit, pour une planification à long terme. Mais à quoi vont ressembler les prochaines années à Québec en éducation? On va agrandir par en dedans, il va manquer de personnel, pénurie, pas d'espace. La situation à Montréal sur le personnel non légalement qualifié, bien, c'est rendu ici à Québec aussi. Puis on a fait des modulaires qu'on disait temporaires pour des sommes extravagantes au lieu de construire des écoles.
Moi, j'ai vu la face de M. Thibault hier là, quand il a entendu le montant là, qui a été nommé là, de 400 millions. Puis j'avais probablement le même visage que lui là, à ce moment-là. C'est épouvantable. Et ça, c'est pas dû au centre de service, parce que dans le centre de service où j'étais, il y en avait une planification à long terme pour dire voici notre effectif, voici la clientèle à venir pour dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vers là qu'on s'en va. Et on était déjà en demande auprès du ministère pour avoir des constructions d'écoles, mais c'est le ministère qui ne répondait pas présent pour ces constructions-là et qu'on se retrouve à devoir faire à dernière minute des modulaires pour répondre aux besoins, parce qu'il faut les asseoir à quelque part, ces enfants-là. Donc, oui, c'est quelque chose qui n'a aucun sens d'entendre ça. Quand je suis à peu près sûr que la grande majorité des centres de services ont bien analysé, ont bien étudié ça, ont fait leurs demandes, mais qui se les sont fait refuser ou qui n'ont pas eu de réponse, tout simplement. Donc, tu sais, quand on dit qu'il y a quelque chose au niveau gouvernemental à modifier, clairement, là, il y a un point de rupture qu'on vient d'atteindre, selon moi.
Quand ça va bien. Hein. Merci beaucoup à Ricardo qui s'est penché là-dessus. On apprenait même, quand on travaille au sein même de tout ce qui est éducation, plein d'informations. C'est en rediffusion ce soir, 20h sur RDI, et disponible sur tout.tv, École sous pression.
Merci beaucoup, Pascal. C'est un excellent dossier. Honnêtement, nos écoles font pitié. C'est pas de la faute des gens qui travaillent sur le terrain, mais bien d'une mauvaise planification gouvernementale. Le temps de vous dire que le Canadien visite le Lightning de Tampa Bay ce soir, 19h. C'est sur les ondes d'RDS avec l'ami Pierre Houde. Le retour de Gravel s'en vient avec Denis Véraud. Denis Audrey et Gab Marino. Et nous, on se reparle demain à midi. Merci, Pascal, pour l'excellent travail.
À demain.
Salut, à demain.